quand on s'est battu. Tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début.
Bienvenue à bord du podcast L'œil carnivore. Vous y trouverez de l'info.
Lex Luthor, le bouffon vert, Magneto, enfin tous les connards, c'est eux qui ont fait ça.
Des critiques constructives.
Parce que ça, c'est honteux, ça. C'est la merde.
De l'amour.
Enfin, je vais tout de même pas me faire reculer sous prétexte que c'est un ami.
De l'innommable.
C'est pas un endroit pour les enfants.
Accrochez vos oreilles. L'équipage vous souhaite une bonne écoute.
Et oui, accrochez bien vos oreilles les enfants, parce que nous sommes au salon Medinasia, donc excusez-nous pour la qualité du son, hein. On remerciera Voix d'Asie, un studio assez sympathique d'ailleurs, avec qui on aura l'occasion de discuter tout à l'heure.
Tout à fait.
Voilà, qui nous a prêté gentiment leur studio, parce qu'il y a tellement de monde dans ce salon qu'on peut à peine se déplacer, donc vous imaginez bien, pour enregistrer, ça va pas être facile. On a une heure d'enregistrement, c'est pas facile non plus Damien.
Ouais.
C'est
même
une première.
Il nous reste
45 minutes même.
45 pas. Minutes, ouais. Alors, il faut qu'on speed.
Ouais, ok, 45 minutes 50. Et donc, ça va être rapide. On a quand même des invités autour de la table parce qu'il y a plein de choses à voir sur ce salon. Au-delà des magasins, il y a quand même des trucs. Et on va tout de suite accueillir Christophe autour de la table, qui est là, qui est l'invité de Nicolas. Et Nicolas, je te laisse le présenter et présenter son sujet.
Mais alors, on s'est baladé dans les couloirs et on a vu une étrange machine, un grand cylindre. On voyait plein de gens rentrer dedans.
Ouais, avec des lumières tout autour.
Ouais. Et ça avait l'air très intriguant. Et je vais laisser Christophe parler de sa machine.
Bonjour. Alors voilà, on a amené une machine ici, donc créée par Vigo Universal, une machine pour numériser les gens. Donc c'est un scanner 3D.
Ouais.
Donc c'est composé de 80 appareils photo qui sont mis tous en cercle. Il y a une vingtaine d'ordinateurs qui sont également synchronisés. Et en 1/60 de seconde, on va vous numériser.
Wow. 1/60 de seconde, on est numérisé.
Voilà, on peut même descendre jusqu'à 1/200. Mais la luminosité ici n'est pas assez correcte par rapport à un studio classique. C'est une machine qui fait quand même 5 mètres de diamètre, qui est déplaçable.
Ah. Et qui est donc ici à la Medinasia.
Et elle est à la Medinasia. Et spécialité pour la Medinasia, on offre le scan 3D pour tout le monde.
Waouh.
Attends, et ça sort comment? Enfin, Nicolas aura sûrement posé la question, mais ça sort comment? Quel format on a ça?
Alors voilà, quand tu as le scan 3D, tu peux faire pas mal de choses avec. C'est les données brutes. Ici, le scan 3D va te permettre d'aller sur le site web, notre portail, où les gens vont pouvoir se voir en 3D, se partager sur Facebook, jouer sur leurs avatars. Et par la suite, il y a des applications qui vont arriver. Par exemple, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Les gens ont reçu une petite carte. On l'a pas encore dit, mais c'est un scoop pour vous pour la suite.
Ah.
Ils pourront, grâce à leur smartphone, déposer leur carte sur la table et voir leur avatar en réalité augmentée.
Oh yeah. Bon, on va aller lui rendre
ça. Ça en jette, on va faire l'œil carnivore virtuel là.
Voilà.
Est-ce qu'on peut l'injecter dans Second Life, notre avatar?
Alors, on a comme projet de pouvoir intégrer les modèles 3D après dans des jeux vidéo, parce qu'on est déjà en train de les intégrer dans les modèles vidéo que notre propre studio de production produit.
D'accord, ok.
Donc on a, je vous inviterai à aller voir quelques petites choses. C'est assez amusant de voir, de voir nous les employés qui courent dans les jeux vidéo.
Bon, c'est un peu le rêve de tous les gamins, hein, de pouvoir être dans le jeu vidéo avec sa propre tête, quoi.
Oui, je suis un grand gamin, donc les 3/4 des machines qu'on invente à la société sont vraiment le reflet de l'esprit enfantin qui a caché tout le monde. Il y a à côté de la machine pour scanner, il y a une planche de surf avec.
La société, c'est Vigo Universal, c'est ça?
Voilà, la société, c'est Vigo Universal.
Et qui est basée à
Namur.
À Namur. Donc une société belge.
Oui, on est vraiment purement namurois. L'invention est une invention purement namuroise. Donc il y a pas mal d'années qu'on travaille dessus. Donc au début, c'était très dur d'accepter que les gens acceptent de se scanner en 3D.
Ouais.
Maintenant que ça marche, on a plein de concurrents. Bon. Mais c'est la preuve que ça fonctionne.
Superbe. Alors Nicolas, comment as-tu découvert un petit peu ce projet sur le salon?
Mais finalement, c'est un peu grâce à Luc.
Complètement, même grâce à Luc.
Qui n'est pas là aujourd'hui.
Voilà.
Mais j'ai pas vu que ça. Ils ont aussi des petites figurines un peu curieuses qui traînent sur leur stand.
Voilà. Une fois qu'on a scanné quelqu'un, il y a le virtuel qui reste sur le PC, sur la tablette, sur le smartphone. Mais on peut sortir ça dans le monde réel. Donc on peut imprimer des petites figurines à différentes échelles, en couleur.
Et ah oui, c'est directement en couleur, c'est ce qu'on se posait comme question. Oui. Elles sont pas peintes, c'est directement de la couleur.
Non, non, c'est directement de la couleur. Donc on a une machine qui peut imprimer dans 360 000 couleurs. C'est wow. Une des imprimantes 3D haut de gamme.
Je crois que c'est assez, quoi.
Voilà, la société dispose aussi du Replication Center à Namur. C'est le plus grand centre d'impression 3D de Belgique ouvert au grand public.
Il faut qu'on aille faire un tour là-bas. Hein.
Ouais, on doit aller se balader là-bas.
Ouais, ouais, ouais,
puis,
ouais.
Est-ce qu'on peut poser la question un peu tabou, mais combien ça coûte de se faire scanner en 3D?
Alors, le scan, on l'offre.
Ouais, donc, mais normalement...
Normalement, c'est une quarantaine, 40 à 50 euros pour se faire scanner.
Ah, oh, c'est pas cher.
Ça va, hein.
Mais vu que la société a développé tellement de technologies d'automatisme que l'on offre de plus en plus les scans pour les événements.
D'accord, ouais.
On laisse par contre les gens payer pour les impressions parce qu'il y a la matière première qui reste. Et ça, ben, on peut pas réduire les coûts, même en développant beaucoup de technologies derrière.
D'accord.
Actuellement, on est les moins chers d'Europe. Et on est aussi la machine la plus performante.
Et c'est belge. Bravo. Il faut le dire, c'est belge. Voilà, sachez-le. Alors Nicolas, est-ce que tu as d'autres questions pour Christophe, notre invité, donc ici,
ouais,
de Figo Universal.
On a vu des gens avec un drôle de casque se prendre du vent.
Oui. Un Oculus Rift augmenté, apparemment.
Voilà, alors ça, c'est une expérience, de nouveau, une petite envie. Je regardais un film, et je vois le surfeur d'argent. Ah. Je me dis, tiens, ça c'est une expérience qui serait pas mal à faire.
Ah, ça c'est clair.
Alors j'ai récupéré une planche de skate, un moteur, ouais, qu'on utilisait pour des événementiels team building. On l'a modifié, on a mis des capteurs dessus.
Ouais.
Vu qu'on a aussi toutes des machineries de feu et de vent, on a récupéré des ventilateurs de spectacle. On a programmé tout ça ensemble. Et puis ben, maintenant vous mettez le casque et vous êtes dans l'espace.
Ah,
et alors
bon,
vous sentez le vent.
Ouais.
Et petite anecdote, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début, on a mis la planche, mm-hmm, on a mis les ventilateurs, on a mis le casque, on a mis les manettes, on a démarré et on s'est tous cassé la figure.
J'imagine, oui, parce que c'est la question que je me posais, comment les gens ne tombent pas en fait.
Parce qu'on a mis un poteau à côté auquel ils doivent se tenir.
Voilà.
Tout simple et efficace.
C'est tellement immersif qu'au bout de 30 secondes, vous ne savez plus où est le dessus, où est le dessous. Parce qu'à cause du vent, on va complètement changer votre sens. Et vu que le casque va vous faire tourner la tête dans tous les sens, ben, c'est automatique, vous tombez.
Et donc ça, on peut l'essayer également ici à la Medinazia.
Voilà, vous pouvez l'essayer, mais si vous avez du courage, parce qu'il y a plus de monde qui attend à notre file que dans les stands de jeux vidéo.
Pour l'œil carnivore, tu peux peut-être nous faire un petit laisser passer VIP, tu vois. Facile, non?
Je pense qu'il y en a qui vont gueuler dans la file.
Parfait. Bon, comme le temps presse, je redonne la parole à Nicolas, hein, qui a peut-être d'autres questions à évoquer ou d'autres sujets à évoquer par rapport à Vigo.
Écoute, je crois que là, on a fait un bon petit tour, sauf si tu as d'autres petites choses à préciser. Mais
Ici, ce n'est qu'un échantillon de ce qu'on fait. Donc
évidemment,
on fait beaucoup d'applications comme ça pour les sociétés, beaucoup de développement de jeux vidéo, beaucoup d'applications sur mesure et d'interactions de machines.
Ouais, ouais.
Et ça, je vous invite à venir les découvrir spécialement quand vous voulez. En fait.
Super. Bon, où est-ce qu'on peut vous retrouver d'ailleurs sur Internet?
Le site de vigouniversal.com ou alors le site du replicationcenter.be.
Super. Vous êtes sur les réseaux sociaux également, Facebook, Twitter?
Alors, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est quasiment sur tous les réseaux sociaux. On a des gens qui ont tweeté sur Vigo Universal toute la journée.
Ouais.
Donc, vous pouvez nous suivre et on va faire aussi un grand concours sur Facebook pour tous les cosplayers qui se sont fait scanner.
Ouais.
On va mettre tout leur cosplay en 3D sur Facebook et le cosplay qui récoltera le plus de likes, on lui offre sa statuette.
Wow. Ça c'est sympa pour lui. Ouais.
Voilà, on va en appeler au cosplayer, faites aimer votre cosplay, montrez que vous avez le plus beau cosplay et on offre la statuette derrière.
Fantastique. Super. Eh ben, un grand merci Christophe d'avoir été autour de cette table.
Merci, et puis je pense qu'on fera un petit tour avec le carnivore du côté de Namur.
C'est moi qui vous remercie.
Avec grand plaisir.
Merci.
Voilà. Alors, pendant que les invités vont suite de place, parce que c'est du live, on enregistre ça en direct, on n'a pas vraiment le temps de s'arrêter, de faire des pauses, d'être propre, on va dire ça comme ça. Donc, à nouveau, excusez-nous pour la qualité de son et bien évidemment du studio, parce que nous sommes là en plein milieu des allées de la Medinazia, donc c'est vraiment pas facile.
Il y a beaucoup de monde.
Voilà, c'est assez chaud. Et je vois que nos nouveaux invités sont autour de la table et on va les présenter tout de suite, et bien avec Damien.
Donc, effectivement, en préparant le podcast de la Medinazia, j'ai regardé un peu les exposants. Et puis, un exposant m'a titillé mes rêves d'enfance, c'est-à-dire de faire de gigantesques robots de combat. Non, je rigole. En tout cas, de travailler dans la robotique, cybernétique et autres. Et donc, bah, j'ai pris contact avec l'association Caliban Belgique.
Caliban Belgique.
Ouais, qui est une émanation de Caliban France, d'ailleurs.
C'est bien ça.
Et alors, je vais demander de parler bien dans le micro.
Faut ouais. bien être collé au micro. Faut bien être sucé parce qu'il y a tellement de bruit que voilà.
Voilà, très, donc, parler vraiment bien à côté du micro. Et donc, j'ai pris contact avec eux. Et la question, la première question, c'est comment on fait du. De la robotique en amateur maintenant
en Belgique.
En Belgique. et puis bon bah bon, commençons avec est-ce que c'est possible de commencer à faire des vrais robots soi-même?
Bah il y a en fait en tant qu'amateur il y a moyen de trouver facilement des kits de démarrage sur internet. Il y a beaucoup de forums maintenant qui commencent à discuter sur des cartes telles que l'Arduino et la Raspberry qui ouais. permettent en fait de programmer très facilement mmh. et très simplement. C'est facilement accessible maintenant via internet. Donc on peut trouver tout genre de servomoteurs, des contrôleurs de moteurs et tout ça. Donc on peut commencer avec un petit robot photophile donc qui suit la lumière et arriver à des trucs un peu plus plus évolués et semi-intelligents, on va
Est-ce
dire.
Est-ce que c'est onéreux justement d'avoir son petit robot en Raspberry par exemple?
Ben, la Raspberry sur la plupart des sites on sait l'avoir à 35€. Donc ouais. c'est très accessible.
Mais ça ne suffit pas, je suppose.
Ah non, bah, ça ne suffit pas. Au niveau software, oui, on peut déjà faire beaucoup de choses au niveau software sur la Raspberry. Ouais. Après, pour qu'on puisse interagir avec des éléments physiques, il va falloir acheter un petit peu de matos. Mais ouais. bon, ça va. Ça dépend aussi. Comment dire
Le budget qu'on a envie de mettre ouais, et la finalité du
voilà,
robot.
C'est,
quoi.
Ça, c'est ouais. ça. Il y a, par exemple, pour les servomoteurs donc, qui permettent de déplacer angle par angle,
ouais.
ben, ça va du très bas de gamme à 2-3€. Et alors, après, il y a des gros servomoteurs qui font 150€ pièce.
Exactement. C'est comme en aéromodélisme, finalement,
voilà,
enfin,
c'est
en
ça.
Téléguidé, je veux dire. Je ne sais pas si c'est le bon mot ou pas, mais voilà. C'est un peu pareil.
Alors, toi, tu es Michael, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Que je ne me gourre pas entre vous deux. et tu fais partie de Caliban Belgique.
Caliban Belgique, c'est
Caliban,
bien ça.
Oui, oui, à chaque fois. Je fais
l'erreur. Il est français, il faut l'excuser. c'est
voilà. Et toi, c'est Mathieu, c'est ça?
C'est ça, oui. Donc, Mathieu, donc je fais
Parle
partie
bien,
moi, de Caliban France.
Caliban France.
Voilà.
Et donc, à la base, c'est Caliban France qui a préexisté et... Et donc, derrière Caliban Belgique, ouais, voilà. comment c'est,
ben voilà, en
c'est
fait,
quoi l'histoire
Caliban France, à la base, c'est trois potes qui faisaient... Enfin, c'est une personne qui a commencé à construire son robot, puis deux personnes se sont rajoutées, et ainsi de suite. Et ils se sont dit, bah, tiens, on montrait bien notre association. Il a fallu lui trouver un nom. Et le robot de la personne l'avait nommé Caliban, et donc l'association s'est nommée Caliban.
Et alors donc, Caliban, on peut dire un peu pourquoi Caliban?
Fabien, qui est donc le créateur de ce robot, est bon, un fan de robotique et donc il est passé par les romans de Isaac Asimov.
Ouais.
Et donc
dont on a déjà parlé dans l'œil carnivore.
Voilà. Et donc il a tiré le nom de Caliban d'un des robots dans Isaac Asimov.
Voilà, le premier robot qui n'avait pas les trois lois de la robotique. Mais voilà, ça je vous invite à aller regarder sur internet qu'est-ce que les lois de la robotique.
Et donc ça c'était il y a 6 ans. Et puis Simon qui est le président de Caliban en Belgique mais qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Il a commencé à suivre d'abord Caliban en France, puis il s'est dit tiens, ce serait bien si on pouvait faire la même chose en Belgique. Et donc il y a maintenant, ça va faire 4 ans, voilà c'est ça, donc 6 ans pour Caliban France, 4 ans pour Caliban Belgique, ils ont commencé à 4, moi j'ai intégré un an après, parce que j'étais dans la même classe que Simon, donc en fait moi la robotique à la base ça me disait rien du tout, moi c'était l'électronique, l'informatique et tout ça, robotique, voilà.
Est-ce que vous êtes en association, je veux dire, sans but lucratif, en ASBL, ou alors vous avez des vocations un peu plus commerciales avec ces robots?
En fait, pour le moment, on est au niveau de la loi, on n'est rien du tout. C'est une D'accord. bande de potes qui se réunissent dans une cave et ouais.
Voilà. Passionné de robots et donc c'est voilà. développer du robot. Quoi.
Voilà, c'est ça. On aimerait bien effectivement passer en ASBL pour avoir déjà peut-être un local et pouvoir avoir un petit budget pour intervenir dans ce genre de choses, mais bon.
Pour l'instant, c'est vos propres budgets, votre propre
voilà, c'est sur fond
capital
propre.
Que vous mettez.
Voilà,
ouais.
voilà, c'est ça. En fait, notre but vraiment, c'est pas de faire du commercial, c'est plutôt de faire de l'éducatif, c'est-à-dire de rendre la robotique accessible à tout le monde. Et c'est pour ça que Caliban Belgique, ils accueillent tout le monde. Moi, je suis automaticien, on a un électronicien, on a un photographe.
Il faut avoir des compétences ou la passion du robot suffit?
Pas vraiment, c'est la passion de partager et d'apprendre.
D'accord, ouais.
Il y a des personnes qui sont
et l'argent arrivées. Un gros portefeuille aussi
bah, oui et non
ah il y a quand même un petit oui
Bah, oui et non, ça dépend le but qu'on se met. Voilà, un petit robot, donc je reviens avec l'exemple du photophile, bah, c'est deux cerveaux au moteur, c'est un petit contrôleur, pour une vingtaine d'euros, on a notre photophile, quoi.
D'accord, oui.
Donc après, si on veut un humanoïde, par exemple, comme...
Ouais, moi je veux ça.
Mais voilà, là, c'est...
Une
c'est...
humanoïde.
Ah, ça, c'est autre chose.
C'est sûr que c'est dans les caves.
Moi, je veux mon robot de combat, là.
Tu vois les intérêts de chacun autour de la table. Super.
Donc voilà. Maintenant, après, il y a aussi l'aspect plus étudiant. Donc, par exemple, Mathieu, qui est étudiant en France... Dans...
Alors à Supinfo,
voilà, Supinfo,
donc, école d'informatique.
Très connue d'ailleurs, Supinfo.
Et donc
ils ont développé dans le cadre des études une tête qui s'appelle
Conscience. Voilà. Ouais, voilà. En fait, simplement, donc moi dans mon école, ce qu'on voit c'est donc de l'informatique. Et moi ce que j'avais envie c'était de pouvoir voir tout ça un peu vivre autre part que sur un écran. Et donc c'est là que je me suis intéressé à la robotique et que donc j'ai intégré l'association Caliban donc France il y a pas très longtemps. Et on a développé donc un logiciel qui prend le contrôle justement d'une tête humanoïde. Donc avec un contrôle vocal on peut interagir, donc poser des questions ou donner des instructions. Et le programme va exécuter et nous répondre donc avec la synthèse vocale, ouais. Avec en exécutant des mouvements, par exemple en nous regardant, voilà, en faisant des signes de la tête, toutes ces choses-là.
D'accord. Est-ce que Caliban France est assez ou beaucoup plus développé que Caliban Belgique aujourd'hui ? Vous avez des activités un peu plus développées ou pas ?
Alors bah forcément vu que ça date un peu plus, ouais. Ça a plus eu le temps de se développer. Pas, ouais. Oui je crois que c'est ça.
Oui 6 ans. Ouais.
Et donc voilà ça a plus eu le temps de se développer, mais oui il y a beaucoup de projets, mais à mon avis Caliban Belgique a aussi un très grand avenir devant.
Superbe. Voilà. Deux petites questions Damien, puis je te laisse la parole. Mais quels sont les projets que vous pouvez citer comme ça, ou même des projets qui n'ont pas encore été concrétisés mais qui sont dans les bacs et qui sont vraiment intéressants à partager, un peu insolites peut-être.
Bah, chaque membre en plus a un petit peu ses projets et puis on vient s'y greffer si ça nous intéresse ou pas. Par exemple, ouais. On a deux membres qui sont en train de plancher sur une machine à commande numérique, donc une CNC,
ouais.
Pour justement ça va nous aider pour créer nos robots. Donc tous les châssis et tout ça, en fait, plutôt que les découper à la main, bah, on aura une machine qui le fera à notre place. Voilà. Moi, j'aimerais bien créer ma propre tondeuse autonome,
ouais.
Ce genre de choses.
D'accord. Un peu comme ce qu'on a maintenant, enfin en Belgique c'est un peu démocratisé, mais ce qu'on a pour nettoyer les petits robots aspirateurs Roomba, Zumba et compagnie.
Voilà, c'est ça.
D'accord,
c'est ça, mais pour tondre. Version tondeuse, voilà.
Super. Et en France, vous avez des projets comme ça, des trucs, Mathieu, qui te viendraient à l'esprit, qui seraient un peu insolites, on va dire?
Oui, bah il y a tout un tas de choses. Après, il y a des choses qui existent déjà, d'autres qui n'existent pas. Donc, par exemple,
c'est top secret en fait.
Non. Il y a des projets, bah par exemple, de développer un quadricoptère. Donc, c'est un drone en fait, simplement,
un drone, ouais.
Qui serait totalement autonome. Donc avec du mapping simplement, avec des caméras qui pourraient être repérées dans l'espace et tout ça, se déplacer.
Ça, le rêve.
Voilà, après ça, il y a
c'est vous qui survolez Paris en fait, c'est ça.
Non mais t'imagines, ouais, un drone qui te suit, un mini drone là qu'on voit les tout petits modèles maintenant, qui te suivrait dans ton appart un peu partout en mode autonome, bon, pendant 10 minutes, mais...
Ah ouais, ça existe ça, avec des, ouais. GPS et tout, ils sont capables de suivre une personne.
C'est vrai, ça.
Ouais.
Super. Bien, Damien, est-ce que tu as d'autres questions pour nos amis de Caliban ?
Alors, je sais que vous organisez des apéros robots, c'est ça ?
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, les apéros robots, en fait, ça, c'est un concept qui a été créé en France où on se réunit en fait tous les deuxièmes mercredis du mois quelque part. C'est pas un lieu fixe ou c'est un lieu fixe. Et en fait, tout le monde vient, on boit un coup, on mange un coup et on discute robotique. C'est ouvert à tout le monde.
Ça se passe où ?
Principalement chez nous pour le moment c'est à Namur, ouais. Donc chez Vigo Universal.
Il y a beaucoup de projets qui viennent de Namur, hein.
Oui, c'est dingue.
Et l'incubateur de Namur.
Moi ça me fait penser, j'avais entendu à l'époque des espèces de compétitions de robots entre écoles en France. Ils ont une espèce de ring et les robots essaient de
se battre. Les battle bots,
battle, voilà.
Ouais, tout à fait. Ouais,
hein. Bon, on n'est pas encore dans le film Real Steel qui est mauvais exemple, mais je veux dire, est-ce que vous participez à ce genre de choses ?
Alors, en tant que Caliban Belgique, on a participé 3 années de consécutives à un concours organisé par l'ELA, donc l'Haute École de Louvain-la-Neuve, où le but était de créer un robot pilotable à distance via un PC, mmh. Avec les touches du clavier, et plus une petite partie autonome. Par exemple, ici, l'année passée, c'était suivre une ligne noire.
D'accord,
oui.
Et par exemple, les intégrations avec un Oculus Rift et des robots, ça peut être intéressant pour vous aussi, j'imagine.
Oui, enfin, nous on est plus en tout cas en Caliban en Belgique, nous on aime bien tout ce qui est hardware, donc création de robots, la partie logicielle, on a quelqu'un qui s'occupe qui gère très bien tout ce qui est reconnaissance faciale et tout ça. Donc je pense qu'il va commander la nouvelle Oculus ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est plus son dada à lui. Moi par exemple, mon dada c'est plus les petits robots roulants, tout ce genre de choses quoi.
D'accord, ouais. Ok. Et c'est quoi pour toi l'avenir justement de cette discipline, de ces petites associations comme ça, de passionnés qui fabriquent des robots? Pour toi, quel avenir tu vois en fait?
Bah, j'espère un long et bon avenir. Et je pense que pour le moment, la robotique, on la voit un peu. Enfin, la personne normale voit ça comme pas une bonne chose. On va dire, là, les robots, ils vont piquer la place des travailleurs, et ce genre de choses.
Ce qui est pas faux.
Oui.
Et heureusement, j'ai envie de dire, ça permettra de.
Mais voilà, ça permettra de diminuer la charge de travail de tout le monde. Donc, ouais. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est vraiment, voilà, montrer que la robotique, ça peut être cool, ça peut être fun.
Pas Skynet, quoi.
Voilà, c'est pas Skynet. Voilà, pas Skynet, voilà.
Quel bel exemple.
Super. Bon, en tout cas, c'est passionnant. Donc, vous avez un stand sur la Medinasia.
Oui, c'est ça.
On passera faire un coucou tout à l'heure après l'émission, forcément. Comme je le disais, le temps presse un petit peu. Donc, on a 10 minutes par sujet. Damien, si tu as encore une petite question à leur poser, c'est le moment ou jamais?
Juste, effectivement, en parcourant un peu les forums de Caliban, Caliban, Belgique et France, je suis tombé sur un projet d'Arte où, effectivement, normalement, il y a une sorte de documentaire, mais aussi de projet. Pas scolaire mais éducatif autour du robot, et pour lequel effectivement Arte a contacté Caliban pour comme aide pour fournir.
J'avoue que j'ai pas vraiment beaucoup suivi ce sujet là sur le forum, mais je sais que oui, Arte a contacté en fait Caliban pour intégrer aux plus jeunes la notion de robotique. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que dans l'association, la moyenne d'âge c'est 30-40 ans. Des jeunes.
C'est jeune ça quand même.
Ouais, mais bon.
Voilà. Ouais, on approche, il y en a qui l'ont dépassé.
C'est pour ça que... Donc, les 30 ans. Hein.
Oui. Et donc, les plus jeunes, ce serait bien qu'ils s'intéressent à ça aussi plutôt que rester coincé devant la TV ou devant leur smartphone. Quoi.
Ouais, donc, d'être actif en fait.
Et voilà. Donc, je crois que le projet d'Arte, c'est de créer une plateforme en fait de partage et d'éducation autour de la robotique, je crois.
D'accord.
Mais c'est prévu pour septembre prochain, je crois. Donc, c'est pas pour tout de suite.
Super. Voilà. Eh bien, Mickaël, Mathieu, nos amis de Caliban Belgique et Caliban France. Tu es venu de France, Mathieu?
Oui, c'est ça, oui, de Troyes, dans l'Aube.
Voilà. J'espère que tu apprécies la Belgique et la Medinasia. Un peu trop de monde, comme on le disait, mais bon, voilà. Un
grand merci d'avoir été avec nous. Vous n'avez pas vu la Japan Expo à Paris, alors?
Non, apparemment, c'est encore plus trash, ouais. Donc voilà, vous l'aurez compris, un œil carnivore orienté sur la Medinasia. Damien, un grand merci d'avoir invité Caliban autour de cette table. Et on va passer tout de suite déjà au troisième sujet. Les amis, je vous laisse céder votre place à nos amis de Pixel Barbecue.
Ouais,
si je ne me trompe pas, ouais, je me suis pas trompé, excellent. Donc le temps qui se déplace, comme je le disais, donc on est en live, donc pas de pause, pas de jingle,
pas de pause.
Voilà.
Si tu peux lancer un petit jingle,
le jingle,
mode YOLO.
Donc voilà, une grosse unicorne passe.
On retournera naturellement dès qu'on a un peu plus de temps à la fin de l'enregistrement, visiter les stands et revoir nos amis qui sont venus ici autour. On salue également Max Key qui était là la semaine passée d'ailleurs sur Twitter, ou il y a deux semaines sur Twitter en tant que auditeur, et qui est là en tant que photographe. Il s'est déplacé de Charleroi, donc un grand merci à lui. On mettra un petit peu toutes les photos sur le portail de l'Arcanivore, bien évidemment. Et on va passer tout de suite au troisième sujet de cette émission avec Nicolas qui nous a ramené quelqu'un de chez Pixel Barbecue. Nicolas, la parole est à toi.
Voilà, je vous ai ramené Maxence de chez Pixel Barbecue et ils font partie d'un petit collectif. Bah, je laisse expliquer ce que c'est.
Ok, et ben bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Alors Pixel Barbecue, et ben c'est un site belge d'actu de jeux vidéo, mais pas que. J'ai un peu développé après, mais à la base c'est vrai que le principe de Pixel Barbecue, on est né avec cette volonté de créer un site web qui parle de jeux vidéo, donc on retrouve notamment ce qu'on trouve ailleurs, soit de l'actu, des tests, des vidéos. On a pas mal d'autres choses qui sont propres à nous. Déjà, le ton. C'est Pixel Barbecue, c'est l'actu sérieusement décalé. Donc, c'est-à-dire que voilà, on fait ça avec amour. On essaye de partager notre amour du jeu vidéo avec tout le monde.
Exactement.
Avec un ton très décalé.
Et Batman aussi.
Ouais. Ils sont pas inconnus du monde du podcasting, parce qu'on a reçu Berry, tu dois connaître.
Ah bah oui, notre Berry national.
Voilà, votre Berry national qui est venu dans un podcast de Johnny Blizz, le Blizzcast, voilà, qui était présent. Donc tu es le bienvenu à présent dans L'œil carnivore.
Et bien merci.
Voilà. Laisse la parole à Nicolas qui va te cuisiner comme on est dans le métier.
Bah, d'où le barbecue. Ouais.
Oui, d'où le barbecue.
Merci pour avoir relevé mon jeu de mots. C'est sympa.
Mais oui, ça vient d'où Pixel Barbecue?
Alors, qu'est-ce que le nom ou
le nom, ouais, le nom.
Alors le nom, c'est très compliqué. Je suis pas spécialement du fait de la genèse, mais c'est surtout parti dans des délire avec toutes ces expressions anglophones. Oh my god, what the fuck, barbecue. Et c'est parti de là. Il y a eu un brainstorming comme ça. On a fini à un moment, on s'appelait Michel Galabru Games. Yeah. Des faux Pixel Barbecue. Pixel
Barbecue. Je pense qu'on y avait gagné au change là. C'est le surréalisme à la belge, on va dire ça comme ça.
Exactement. Et Pixel Barbecue d'ailleurs, qui s'écrit pas du tout comme ça se prononce, vu que c'est les lettres pxlbbq.com.
Fantastique.
Et donc voilà, le nom a pas vraiment, c'est parti d'un délire. Et aussi le fait de barbecue, bah, c'est quelque chose d'assez festif que je pense que tout le monde apprécie ici. Voilà, un bon barbecue avec une bière. Ouais. C'est toujours sympa et c'est un peu l'esprit qu'on essaye.
Alors, il n'y a pas de bière à la Méninazia.
Jamais.
Il faut le dire, j'ai fait trois palais pour trouver une bière. Mais impossible.
Mais il y a du saké qu'on peut essayer gratuitement, ouais, pas très loin, qui est vachement.
Gratos
bon. Ouais, mais bon, c'est Rikiki, hein, t'as pas grand chose.
Bon. Tu peux te déguiser plusieurs fois et revenir.
Ouais, bon. Parfait.
Bah, en traînant sur le site, c'est vrai que vous avez aussi des petites vidéos un peu particulières.
Ouais. On a notamment la chronique de Berry, donc qui est que vous connaissez, qui est une chronique qui s'appelle Ellison, qui est consacrée aux musiques du jeu vidéo. Donc les musiques, c'est quand même une composante vachement importante dans un jeu vidéo. Et il vous fait découvrir toutes les deux semaines à peu près une musique d'un titre pas spécialement connu, mais voilà, le jeu peut être très mauvais et avoir une musique qui déchire et laquelle les gens seraient passés à côté. Et il vous fait découvrir ça de manière très très ludique, très sympa, et c'est vraiment à voir. Je vous conseille de foncer dessus, c'est vraiment très chouette et très bien mis en scène. À côté de ça, on a aussi toutes les fameuses vidéos, que ce soit de let's play, comme on appelle ça dans le milieu, donc voilà, des vidéos où vous nous verrez jouer à tel ou tel titre. Ça se passe aussi.
Vous êtes combien sur le site?
Alors on est un petit paquet, on a pas mal de rédacteurs, on doit être à peu près une petite dizaine.
Ouais, quand même.
Avec chacun des spécificités. C'est ça aussi une des forces du site, c'est que ça roule bien.
Et je pense que c'est une des rédacs les plus nombreuses. Vous êtes des plus nombreux en Belgique, hein.
Je pense que ouais. Mais il y a pas mal de Français. On est très.
Vous êtes éclaté. Voilà.
Ouais. On n'est pas seulement belge. On a des Français. On a un Espagnol.
Ah bien, ça comme moi.
Donc voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais ouais, c'est vrai que le cœur du projet est belge.
Super. Hein. Ouais. Et sur la Méninazia, t'as vu quoi qui t'a fait tiquer un peu ou? Quel est le stand sur lequel tu t'es vraiment arrêté?
Alors, le stand sur lequel je me suis arrêté, bah, c'est chez nos amis de Prestart, qui est aussi un autre site belge et qui a vraiment, ils ont un stand comme ça, rétro gaming, qui retrace un peu la jeunesse du jeu vidéo, qui est vachement chouette. Je me suis bien éclaté là-dessus. À part ça, j'ai aussi un rendez-vous, mais malheureusement, qui n'était pas accessible à tout le monde, un rendez-vous presse pour essayer la démo de Final Fantasy XV.
Voilà, et alors?
Si je devais te dire en quelques mots, il y a beaucoup de travail encore. Vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Mais c'est très chouette, ils ont un système de combat qui est là et ça claque graphiquement, bien qu'il y ait encore pas mal de soucis, c'est une démo. On voit que ça sortira pas cette année.
Ta particularité à toi en tant que rédacteur justement sur PXL Barbecue, c'est quoi? C'est quoi ton dada au niveau jeux vidéo?
Mon dada au niveau jeux vidéo, bah, je dirais surtout les RPG, les MMORPG. Je traîne ma carcasse là-dessus depuis très très longtemps et c'est un peu mon domaine de prédilection.
Et t'as une vie encore?
Non.
C'est ça le secret.
Il y a eu les gros fans autour de la table.
Et pour toi, le MMO, celui là que tu devrais mettre au-dessus.
Encensé quoi.
Alors celui que je devrais encenser peut-être en coup de cœur serait Lineage 2, parce que j'ai traîné mes basques là-dessus pendant des années. J'ai joué à très haut niveau. Donc c'est vraiment un coup de cœur. J'y joue plus pour l'instant parce que voilà, si je voulais jouer, il faudrait que je fasse que ça de ma vie. Mais pour moi voilà, c'est un truc coréen, vraiment grindé, ouais. XP, tuer du mob non-stop. J'y pense avec nostalgie, c'est surtout les yeux de nostalgie qui font que pour moi c'est un jeu voilà, coup de cœur. Sinon un truc à surveiller, ce serait Tree of Savior, un MMO coréen encore, qui est développé par un des papas de Ragnarok Online. Enfin un MMO qui était en 2D, qui était super joli.
Ça je connais.
On retrouve la même patte graphique, donc c'est Tree of Savior, il y a une bêta qui devrait démarrer à l'international dans très peu de temps. Et je pense que c'est à surveiller.
Superbe.
Ah bah chouette.
Bah ouais, c'est intéressant. Super,
et vous trouvez toute l'actu là-dessus sur Pixel Barbecue, hein, donc voilà,
c'est exactement. Ouais, on a un peu de promo. Mais bon, on a la Méninazia, donc ce qu'on va voir un petit peu aussi, ce qu'on va te poser comme question plutôt, c'est qu'est-ce que vous faites sur la Méninazie? Est-ce que vous avez juste des flyers ou vous avez d'autres trucs prévus?
Ben alors malheureusement,
là, c'est un sujet qui fâche.
C'est un sujet qui fâche parce que voilà, on n'a rien cette année à la Méninazie. Oh. Si ce n'est que on a quand même entre guillemets un partenariat avec Vedoum Cash, je sais pas si vous connaissez.
Ouais, Vedoum qui fait des consoles. Ouais.
De consoles. Et alors Berry justement va animer demain la conférence de Vedoum Cash où elle expliquera un petit peu comment son travail, comment customiser, comment pimper des consoles. Donc Berry sera là pour ça. Il l'a aidé aussi à monter le stand, donc on a un peu de cœur depuis que c'est
un peu de stand.
Voilà, mais on n'a pas eu de stand cette année pour diverses raisons.
D'accord.
Mais voilà. Voilà. Voilà, donc on est là en spectateur pour une fois et c'est peut-être pas plus mal, c'est un peu plus relax.
Superbe. Super.
Vous avez d'autres événements à venir où vous serez présent?
Alors on aura le Gameplay Festival, normalement, mais pas normalement, c'est sûr, on a un stand là-bas qui sera axé, encore une fois c'est très Esprit Pixel Barbecue, sera axé sur le pool, sur les jeux à faire en coop, tranquille sur un canapé avec des potes, une main sur la manette, l'autre sur une bière ou des chips.
Ah, tu m'as fait peur.
Alors voilà, ce sera un truc très cool, on va essayer de ramener des canapés, voilà.
Il faut arrêter de dire bière les mecs autour de ce podcast, ça va pas quoi.
J'en manque.
Des chips, voilà, on ramènera des chips.
Ouais.
À part ça, ouais, on a encore pas mal de trucs, mais ça se concrétise et je vais pas trop en parler pour le moment, mais le sûr c'est au mois d'avril, la gameplay.
Fantastique. Super. Est-ce que vous avez encore des questions autour de la table pour notre ami
Invité
de Pixel Barbecue? Ouais. Profitons de lui, exploitons-le un peu. Jeux vidéo, pas de questions les amis?
J'ai des questions d'ordre privé, mais
ouais, vas-y.
Mais vas-y. Ah,
mais pas peur.
Non, mais j'ai, parce que je connais bien un rédacteur qui fait le comics en Belgique.
Ouais.
Et qui est apparemment un ami à vous et qui apparemment avait tenté de vous rejoindre. Alors je veux savoir si c'était des rumeurs fondées.
Je suis pas spécialement au fait, mais est-ce qu'il aurait déjà écrit pour Pixel Barbecue?
Possible.
Est-ce que ce serait pas un certain Franck Lès?
Si, tout à fait. Pour
Ah non, sérieux?
Si. Je le connais un petit peu, mais je sais pas, je suis pas au courant.
Voilà.
En tout cas, avec plaisir, j'ai envie de dire. Pourquoi pas?
Ça rejoint l'univers global. C'est vrai que bon, je crois que je vous suis sur Facebook et c'est vrai qu'il y a pas mal d'activités aussi de Batman et un peu.
On est très axé culture geek, c'est vrai. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout traiter. C'est vrai que tout le temps, on partait un peu dans tous les sens, à part les cinémas, par les comics, par les DVD qui sortaient. Mais voilà, il y a un moment où il faut faire des choix parce qu'on n'a pas le temps et là, on s'est vraiment recentré jeux vidéo à 100%. Mais on crache pas de temps en temps sur une petite actu un peu rigolote annexe qui a trait à la culture geek parce que voilà, c'est une grande famille. C'est des choses qui sont connexes.
Alors justement, pour clôturer cette petite interview découvert de Pixel Barbecue, on aura l'occasion de vous réinviter forcément parce que vous êtes belge.
Avec
donc
plaisir.
C'est très facile de vous inviter à l'occasion aussi. Donc vous reviendrez de façon plus exhaustive dans les carnivores, bien évidemment.
Super.
Donc voilà, pour rappel, si vous ne l'entendez pas, et Dieu sait si ça, moi je l'entends derrière, mais on est à la Méninazie. Donc on a un timing assez serré. On remercie encore à nouveau le studio de Voix d'Asie, l'équipe de Voix d'Asie qui nous a prêté ce studio clé en main. Comme ça nous a évité de prendre un studio. Donc c'est
voilà,
pas plus mal.
Tout trimballé.
Exactement. Donc voilà, et vous retrouverez toutes les photos également de lui là qui me fait des photos, le roux là, Maxty, qui est occupé de faire plein de photos et de me flasher la gueule. On retrouvera ces photos, je suis sûr, sur le site. Un grand merci à toi d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Tout voilà. À fait. Et on va enchaîner avec Mathieu.
On enchaîne avec Mathieu. Alors pour information, comme ça vous le savez, autour de la table les amis, mais on est à 32 minutes d'émission, donc on a un petit peu de délai.
On a un petit peu de délai, oui et non, parce que normalement c'est à 18h qu'on arrête. Hein,
ouais, donc, ouais, mais il nous reste un quart d'heure en gros, donc on va pouvoir aborder maintenant le sujet de Mathieu. On va parler.
Voilà, vas-y, lâche-toi.
On va parler de manga.
Non, mais je vais faire vite.
Et dès que je mets un petit jingle d'abord, et puis installe-toi correctement sur le micro qui est là-bas, etc. Parle bien dans le petit truc rond là, parce qu'il est complètement tordu le micro. Voilà. Et on va parler naturellement manga, parce que notre ami Mathieu, grand spécialiste de la bande dessinée, bien évidemment, eh bien, s'est amusé à parcourir les éditeurs manga. Forcément, c'est une des tendances de ce studio. Et donc, dès que c'est bon, dès que le petit jingle est parti, on passe à Mathieu. Mathieu, la parole est à toi.
C'est formidable.
Il était là depuis le début.
Ouais.
Voilà.
Donc à la Méninazie, qu'est-ce qui se passe au niveau des mangas? Qu'est-ce que moi j'ai pu repérer sur le dans les allées? Qu'est-ce que j'ai remarqué qui était intéressant?
Ah, d'accord.
Alors déjà le premier constat, c'est
casque.
Alors c'est génial, en fait JB n'a pas bougé son cul et a fait tout bouger.
Mais non, mais pas du tout, pas du tout.
Ah bah tu vois, alors que Mathieu
de Besson, j'étais au milieu de ma phrase et je suis obligé de tout recommencer à zéro. C'est super sympa, merci beaucoup les gars, vous m'aidez à fond.
Il a peur Mathieu.
Mais oui, mais non, mais je suis terrorisé, il y a tellement de monde, ça flash dans tous les sens.
Il y a trop de tacos quoi.
On est dans un endroit qui ressemble à un blocus de la Seconde Guerre mondiale.
Je viens de voir un panda géant passer là.
Un panda géant. Moi j'ai vu aussi un personnage de fou de tout droit sorti de Warhammer 40 000. C'était ahurissant.
Ah,
il prenait passer, toute la place dans l'allée, je pouvais plus passer. Je me suis énervé contre lui. Je dis enfin,
un marine
qui
fait ça en mode gros marine.
Exactement.
Il était là l'année passée, je pense.
Il y a quelques cosplays quand même assez énormes.
Il y a quelques cosplays qui sont assez énormes. Ouais. Quelques.
Il y a des cosplayeuses aussi.
Elles sont pas toutes énormes quand même, Sergio.
Non, j'ai pas dit ça.
90%, ça va.
Bon alors Mathieu, tu t'es baladé, tu as vu des bouquins.
Alors
quand
j'ai
même
vu quelques bouquins quand même. En fait, il y a un éditeur, enfin deux éditeurs principalement qui sont présents, qui sont des petits éditeurs de manga,
ouais,
à savoir Taifu Comics et puis Ototo. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que mis à part le fait qu'ils sont de petite taille, bah, ils réussissent quand même à bien en fait tirer leur épingle du jeu.
Ouais.
Donc c'est des éditeurs que le grand public connaît pas forcément beaucoup, si ce n'est que Taifu avait lui s'est axé en fait sur un type de publication qui est beaucoup plus destiné à c'est du yaoi, c'est du josei, c'est-à-dire c'est des mangas,
oula, tu dois expliquer
amoureux,
tous ces mots bizarres.
C'est du manga lesbien, soft, etc. Voire c'est carrément du manga hot X, puisque c'est eux qui sont
hentai,
à la baille.
Hentai,
exactement, c'est la maison d'édition qui s'est axée hentai sans compromis. C'est ce que
et ils sont là sur le salon Medinazia.
Ils sont là sur le salon. Ils ont leurs bouquins. Ils sont décellophanés. Donc on peut même les consulter. Attention, c'est chaud.
Ah putain.
Mais attention. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que moi, ce qui m'a surtout interpellé, c'est Ototo, parce qu'ils ont développé là un bouquin qui s'appelle Sword Art Online, qui est un peu un gros bazar, un gros blockbuster au Japon. Et ce qui est intéressant, ils tirent leur épingle du jeu. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est une Ototo est une maison d'édition qui s'est avec Sword Art Online entre autres.
Ouais.
Ils ont d'abord publié le manga qui est dérivé en fait de la nouvelle Sword Art Online. Alors, Sword Art Online en fait est à la base un petit roman qui est publié au Japon, et puis ça a été décliné en manga puis en animé.
D'accord.
Et ce qui est intéressant, c'est que la maison d'édition s'est calée en fait sur à la fois la publication du manga dans un premier temps, mais aussi du roman. Donc c'est intéressant parce que moi j'en discutais avec Yves Huchet, qui est l'éditeur d'Ototo, qui m'expliquait que c'est super en termes de captation au niveau du public, puisqu'on est non seulement sur du manga classique, mais sur aussi de la littérature. Et donc c'est bien, puisque là c'est quelque chose qui est assez différent dans le marché du manga aujourd'hui. C'est qu'on s'axe non seulement sur vraiment un univers au sens très large du terme. Il y a eu Fairy Tail a développé des romans, il y a One Piece aussi qui a fait ça, mais je crois qu'il y a là on est vraiment dans du roman un petit peu fleuve même, parce que quand on regarde les paginations du roman Sword Art Online, où c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et on voit que ça c'est une évolution constante en fait, et assez majeure au niveau du manga. Et c'est un éditeur qui a choisi une branche particulière, mais je crois qu'il s'en sort bien. Lui me dit qu'apparemment à la Fnac déjà, sur les sites internet ou quoi, c'est déjà épuisé. Ça part visiblement bien aussi en librairie. C'est vrai que comme sur le milieu de travail, on se partage un peu les sélections de bouquins. Donc moi je me suis axé sur le manga Sword Art que je vends quand même correctement à la librairie, et pas forcément sur le roman. Mais bon, le fait est que c'est quelque chose qui part bien. C'est intéressant parce que ça rejoint aussi une politique éditoriale qui a été adoptée notamment par les éditions Kiun, qui est un éditeur maintenant très important du marché, qui a, je dirais, entre guillemets, taillé des croupières aux deux éditeurs principaux de manga, à savoir Kana et Glena, qui étaient vraiment les deux principaux. Historiquement parlant, parce que maintenant il y a aussi Pika, il y a d'autres éditeurs qui sont vraiment présents sur le marché aussi. Et Kiun, lui, est une maison d'édition qui a eu la particularité d'aller éditer directement des auteurs au Japon. C'est-à-dire que Tetsuya Tsuitsui, notamment, c'est un auteur phare du catalogue. Il s'appelle Tetsuya Tsuitsui, c'est pas facile à prononcer. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a rédigé des mangas très intéressants, en plus sur des séries courtes, avec des bouquins comme Manhole, Dudzent, qui sont des romans, soit des mangas, pardon, soit en trois parties, soit sous forme de one-shot aussi. Donc,
ça marche très bien.
C'est agréable parce que c'est vrai que dans les mangas on a peur de s'engager dans quelque chose.
C'est la politique. On pourrait faire toute une chronique là-dessus sur cette maison d'édition là, parce que elle a vraiment tiré très clairement son épingle du jeu depuis quasiment maintenant une dizaine d'années. Et je crois qu'il y a des éditeurs qui n'ont pas vu la chose venir. Kiyun, lui, a pris vraiment courageusement, je dirais, de prendre son bâton de pèlerin et d'aller directement là-bas pour débaucher des auteurs qui n'étaient pas édités par des auteurs japonais, pour dire, nous, on va vous éditer en français. Et parfois, ça donnait lieu même à des sorties simultanées au Japon et en France. Donc, c'est vraiment c'est assez
intéressant. Et ils sont belles, ces deux maisons d'édition que tu as rencontrées?
Non, ce sont vraiment des éditions, des éditeurs français. C'est pour ça que Kana, qui est à la base une maison d'édition qui a été créée par la branche de Dargo Belgique, donc a été créée par un monsieur qui s'appelle Ischnirf, et donc n'est pas présent ici. Donc moi, c'est vrai que j'en ai parlé justement, j'ai demandé à Yvuché un petit peu ce qui lui, pourquoi est-ce que finalement il n'y avait pas la présence de ces gros éditeurs. Bon, il faut savoir que moi j'ai travaillé sur la Made in Asia il y a quelques années, et Kana était là à ce moment-là, mais bon, c'est simplement qu'en termes de je dirais de chiffre d'affaires, et en termes de ce que ça coûte de venir avec un stand et de le monter, d'avoir un staff, etc., c'est vrai que une plus petite structure aura beaucoup plus de chances de s'en sortir et de faire quelque chose d'intéressant sur un tel salon. Moi, c'est ce qui m'a expliqué. Et puis alors, ce qui était intéressant, c'est que lui constate vraiment qu'il a un public qui vient de façon récurrente au Made in Asia, et qui vient acheter ses bouquins sur le stand, qui ne les achète pas, si vous voulez, à d'autres moments, quoi.
D'accord.
Donc moi, j'ai trouvé ça aussi assez pertinent comme remarque.
Alors, tu as pas mal préparé, Mathieu, ta chronique. Tu es venu repérer tout à l'heure, ce matin,
tout
à 11h,
tout à fait. J'ai dû bousculer plein de gens, j'ai dû m'excuser un milliard de fois, voire pas m'excuser du tout des fois.
C'est encore mieux, ça.
Bah ouais.
Beaucoup d'otaku, dans les allées.
Il y avait beaucoup de monde.
Justement, tu as pas mal préparé. Est-ce que tu as encore des choses à évoquer sur ces éditeurs?
Simplement la chose qui a pour clôturer un petit peu cette présentation là, le manga papier recule énormément. Ça, c'est mon constat, je veux dire, en termes de présence de libraires sur place. J'ai vraiment constaté qu'il y avait plus grand chose. Est-ce à dire que ça va complètement disparaître d'ici quelques années? Je ne sais pas. Les dédicaces, il y en a beaucoup moins. Il y a 4 auteurs présents simplement. C'est en net recul pour il y a d'autres stands qui sont présents, d'autres beaucoup plus axés sur la culture en général du Japon. Je clôturerai simplement en mentionnant la présence des éditions Issei Kinicho, que moi je ne connaissais pas du tout, qui font des bouquins plus axés livres de photos sur le Japon, voire guide de voyage. Et un petit coucou à cette maison d'édition là, que moi j'ai potassé un peu leurs bouquins. C'est du très beau bouquin, c'est bien soigné, c'est des jolies maquettes. Ouais. Donc j'espère que prochainement vous les trouverez en librairie.
Super.
Voilà.
Bien, Mathieu, un grand merci pour ce tour des éditeurs du papier ici à la Made in Asia. Et justement, ça me permet de rebondir et d'enchaîner pour un dernier tour de table. Il nous reste encore quelques minutes, 7 minutes précisément, pour savoir un petit peu votre avis sur ce salon Made in Asia. Je finirai naturellement avec ma note personnelle, mais commençons peut-être par
JB qui vient d'arriver, qui a rien vu en fait.
Oui, moi j'ai rien vu.
Impression à chaud comme ça.
Je reviens du Portugal malade. Et beaucoup de monde, beaucoup de boutiques, ça m'a, beaucoup de jeunes aussi. J'étais très surpris par le nombre de l'âge moyen en fait.
Ouais.
Et la diversité aussi. On a aussi bien des faux japonais que des vrais belges.
Peut-être des vrais japonais. Qu'est-ce que tu racontes?
Certains, j'en doute. Et c'est vrai que moi j'étais plus, j'attendais un peu plus de voir un peu de l'anime ou un peu de représentants cinéma ici. Mais en fait, je me mettais un peu un doigt dans l'œil. Mais il y a beaucoup de trucs de merchandising. On est à côté d'une boutique où il y a pas mal de figurines. On a croisé aussi à un moment, ça m'a fait rigoler, avec Nico et Damien, des petites scénettes de Chevalier du Zodiac, de Aliens.
J'ai vu celle-là, ouais.
C'est très chouette. Et donc c'est marrant, mais après, what?
Les otaku aiment bien, quoi, tu vois.
Oui, ça,
c'est ta passion, tu vois.
Et en fait, il y a un côté de un peu, m'as-tu vu, je te montre mon cosplay, mon gros cosplay, et c'est un peu moyen, quoi.
Cosplay.
Donc voilà.
Et surtout, j'aime bien me regarder, il va faire une blague.
Voilà, c'est ça. Et voilà. Moi, j'étais venu en voulant parler de beaucoup de choses et en parlant des kaijus pour parler des asiatiques, mais
c'est quoi les kaijus?
Les grosses bêtes, c'est Godzilla.
Ah oui, oui, d'accord.
Mais
oui.
Bon, ça fera, je pense, un podcast. Et puis, je pense que le mois prochain, on a une surprise
voilà.
Où on parlera pas mal de cinéma.
Super. Nicolas, un avis sur la Médinasia, global ?
Ouais, très très grand. Je m'attendais pas à ce que ce soit si grand que ça, en fait.
D'accord,
c'est
taille,
vraiment énorme. Et puis, on est content d'avoir trouvé le passage secret qui avait une sortie par extérieur qui permet d'avancer plus vite. Parce que sinon, ça prend un quart d'heure de faire une allée.
Mais j'ai pas trouvé. Ouais,
il faut savoir que quand on est arrivé avec Nico, alors on était les premiers à arriver. Et on s'est dit, bon, alors il faut qu'on aille de l'autre côté pour aller au village asiatique. On a mis une demi-heure pour y arriver en gros. Et puis une fois là-bas, on nous a dit non, il faut revenir à l'entrée à l'info.
Ouais, on a fait pas mal d'allers-retours dans le même couloir. C'était
un peu c'était
épique. Mais voilà. C'est un peu le genre de salon où finalement qui devient presque trop grand en fait. Parce que c'est ça justement, on parlait avant, il y a plein de petites cases comme ça qu'on va pas voir qui sont un peu sur les côtés où les mecs fabriquent des trucs et ils sont là pour les montrer. Et c'est comme ça qu'ils existent, parce que s'il n'y avait pas ce genre de salon, ils n'existeraient pas. Mais du coup, on les voit plus trop parce que c'est trop grand, il y a trop de monde en fait.
Ouais, tout à fait. Donc, en fait, c'est éclipsé par le côté merchandising.
Ouais.
C'est comme un moment, il y avait une attraction qui était assez rigolote, on l'a vu. Il y avait les 12 maisons de Chevalier. Vous pouvez refaire les 12 maisons de Chevalier du Zodiac. Voilà, il y a des principes un peu rigolos comme ça, mais c'est pas, je trouve, super mis en valeur. Quoi.
Ouais, tout à fait.
Mais c'est pour l'avoir fait il y a quelques années, une première fois, ça remontait à quoi maintenant 5 ans. Ça a quadruplé de surface.
Et puis ça a très fort changé aussi. Il y avait une dose de culture avant, de présentation de culture japonaise et asiatique qui était là. Là, c'est vrai que c'est un peu.
Oui, il y a des démonstrations de kendo,
ça a toujours à côté. Maintenant, ça prend une telle superficie.
C'est éclipsé par le reste. Damien, un avis ?
J'ai vu des costumes plus ou moins réussis. Des fois c'est très très drôle, des fois c'est impressionnant. C'est vrai que c'est bizarre. Là, je viens de voir un gars en chemise jaune avec des cheveux jaunes qui passe. On se demande avec un panneau marqué dessus. Qu'est-ce qu'il y a?
Il est parti, mec.
Je sais pas.
On dirait un mix entre joueur du grenier et Dragon Ball Z.
Ouais, je pense que c'est ça. Ouais.
Putain, et les panneaux, alors faut en parler quoi. Les frioles, partout, s'il te plaît.
Ah oui, il y en a un qui est très bien.
J'ai vraiment pas envie de te faire un free hug.
Non, mais il y a un panneau qui est free kick dans ta face.
c'est génial.
Ah là là.
Bon, alors, pareil, j'ai vu un cosplay, je sais pas d'où ça vient, un mec en uniforme avec un immense drapeau soviétique.
Américain, soviétique.
Je sais pas de quel manga ça peut venir ou de quel anime.
J'ai aucune idée, mais je me
demandais d'où il venait ce gars.
Ouais, moi, je rejoins Nicolas, quoi. En fait, c'est devenu un salon déjà trop grand, mais surtout aussi qui mélange des trucs trop divers. C'est-à-dire que pour moi, c'est plus une foire où tu vas trouver un peu de tout et tu vois finalement rien. Qu'un vrai salon dédié à la culture japonaise et tout, asiatique pardon, et à tout cet univers là. C'est-à-dire moi il y a quelques années, hein, Mathieu tu le disais, mais c'était carrément différent. Mmh. T'avais des boutiques mais t'avais aussi un point central sur l'animation, un vrai coin jeu vidéo et c'était assez compact quoi. Donc finalement.
Mais c'est sûr qu'il y a.
Voilà,
c'était
gay quoi. Là,
il y a un léger problème de circulation quand même. Hein, je veux dire, c'est pas étonnant.
C'est
moi j'ai été vraiment bloqué à fond ce matin. Mais par contre ce que je voulais, la dernière remarque que je voudrais faire juste avant qu'on finisse, si j'ai le temps, c'est beaucoup plus cosmopolite par contre qu'avant. Moi je constate, je me suis à un moment posé pour au moment où je rédigeais mes petites notes, je me suis posé dans un coin et j'ai constaté que ça parlait beaucoup flamand. Donc vraiment je crois que c'est un salon qui est en train un peu comme le salon du comic à Gand. C'est la même chose, c'est à dire qu'on a un public néerlandophone qui a pas forcément accès à tout ce dont il voudrait avoir accès, je veux dire en néerlandais, qui se rend ici parce qu'il n'y a pas forcément les équivalents en Flandre en termes de salon.
Moi je trouve qu'il faudrait pas simplement, et je clôturerai moi là-dessus, sur le fait de dire voilà, on mélange, est-ce qu'on mélange un salon où on vend plein de trucs et qui vont combler les otaku qui veulent venir acheter, est-ce qu'on fait un salon de finalement cosplay ou un événement cosplay tu vois d'une certaine façon, ou est-ce qu'on fait du jeu vidéo, est-ce qu'on fait du tout petit, de la PME quoi, ou de l'associatif, tu vois. Le problème c'est que voilà, c'est éclipsé par des trop grosses massues qui sont les boutiques, qui sont les cosplays un peu à tort et à travers. Voilà, c'est un petit peu, je sais pas, moi c'est mon avis global, l'âge, la fréquentation, c'est pas gagné quoi.
Et puis quelle est la comparaison aussi avec la Japan Expo, ça serait peut-être un jour à faire, parce que je sais pas vraiment si le public est différent.
Mais il y a plus de Japan Expo en Belgique.
En Belgique, il y en a plus.
Je pensais que c'était encore organisé
cette année dernière.
Enfin voilà, donc on constate un petit peu dommage.
Il y a plus de comparaison.
Un petit peu dommage pour la Médinasia d'en arriver à un constat pareil, mais c'est vrai que l'organisation, même nous, en termes d'accréditation, d'accès, de facilité, etc. Preuve en est, c'est qu'on n'a pas notre studio pour faire notre émission ici, alors qu'on était prévu, etc. Parce que finalement, on s'est dit, c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'arriverait jamais à se déplacer nulle part. Quoi, tu vois, donc En termes d'organisation, il y a encore quelques petits trucs à faire, mais on les remercie de toute façon de nous en avoir fait.
Oui, quand même.
Ouais,
oui,
bah,
quand
même, on va pas les évoluer tout à fait.
Énormément. Donc, ouais.
Voilà. Mais on les remerciera naturellement, et on les remercie d'ailleurs tout de suite de nous avoir invités, de nous avoir permis de découvrir également des choses comme ça ici à la Médinazia.
Voilà. Damien. Et donc, on remercie Radio Voix d'Asie.
Oui. Radio Voix d'Asie. Radio Voix d'Asie.
Voilà, on mettra le lien sur. Sur le site de l'œil carnivore, ils émettent, hein, c'est une vraie radio. Attention. Et peut-être qu'on diffusera nos émissions à travers d'ailleurs cette radio.
Bah, ce serait pas mal.
Entre autres. Sinon, bah, nos différents partenaires, donc on rappelle, il y a IndieWeb Recording.
C'est moi.
Il est là. Il y a Badgeek.fr, PodCloud, j'en oublie sans doute, je ne sais plus.
De quoi, pardon? Des remerciements? Merci à Maxi qui est là, qui fait des photos.
Maxi vient dire juste.
Bonjour.
Bonjour.
Le micro,
bonjour à tous.
Plus près, plus près. Entendu.
Vas-y.
Ça fait longtemps que j'ai plus été devant un micro, alors.
Voilà. Donc si vous aussi vous voulez avoir votre voix dans le micro de l'œil carnivore, n'hésitez pas, venez. On mord pas.
Passez le test.
Passez le test.
C'est le cas. Voilà. Luc aussi, hein, qui était malheureusement
pas
là.
Luc aussi, qui n'était pas là, voilà. Et puis à bientôt pour. Pour le prochain podcast,
bah oui.
Sachant que le dernier qu'on a enregistré n'est toujours pas en ligne.
Il arrive
avec ses petites pattes, mais c'est pas facile.
Il est dans les tuyaux, quoi.
Il est dans les tuyaux. Voilà.
Super. Bon, bah, les amis, c'est moi qui vous remercie également. Je vous remercie d'avoir fait le tour de Médinazia, d'être venu braver ça. J'espère que c'est audible. Là, c'est à vous que je m'adresse, les auditeurs. N'hésitez pas à réagir, évidemment, à dire que c'est tout pourri et tout. Voilà, on vous aura prévenu, hein, d'avance. Donc, sachez-le. En studio, du moins en salon, c'est compliqué.
Et la prochaine fois, c'est les zombies.
Exactement. Prochain rendez-vous, bah, on peut le dire maintenant.
On peut le dire, on va balancer.
On peut le dire.
Nous a décroché des accès au BIF.
Un petit accès au BIF.
Alors, le BIF, voilà. C'est le Bruxelles.
International Film Fantastique.
Voilà, donc la prochaine fois, on va parler de films d'horreur. De choses qui font peur.
De série B, de vampires, de trucs
de cerveau jaune qui bouge tout seul.
Voilà, c'est ça. Juste un 1er avril.
On va parler de blob.
Ouais, on va voir les blobs.
On va aller poser notre studio et enregistrer ça au BIF. Donc un grand merci aussi à toi, Jean-Baptiste. Les amis, tour de table, au revoir.
Ciao.
Salut, ciao.
Le bouffon vert, Magneto, enfin tous les connards, c'est eux qui ont fait ça.
Des critiques constructives.
Parce que ça, c'est honteux, ça. C'est la merde.
De l'amour.
Moi, je veux tout de même pas me faire reculer sous prétexte que c'est un ami.
De l'innommable.
C'est pas un endroit pour les enfants.
Accrochez vos oreilles. L'équipage vous souhaite une bonne écoute.